Vous écoutez France Culture.
La malle des Indes. Une émission proposée par François Angelier. Tel père, tel fils, père avare, fils prodigue, chien, chasse de race, toutes les maximes sont tour à tour bonnes ou mauvaises pour rendre compte des liens forts et fructueux qui unirent Alexandre Dumas et son fils. Le mieux est sans doute de lire leur correspondance telle que savamment éditée par Claude Chope au Mercure de France. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Claude Chope.
Bonsoir.
Alors on pourrait vous inviter tous les mois à peu près. Il y a quand même tous les trimestres. Parce que vous nous révélez à date très régulière, trimestrielle, on peut dire, de nouveaux textes de Dumas, tous évidemment savamment édités, je le répète. Il y a quand même extraordinaire. On croit connaître les gens, mais Dumas, c'est un gisement inépuisable.
Absolument, le mot gisement est très vrai. C'est la mine. Bon, au fond, je n'ai pas besoin de descendre très profondément pour trouver l'or. L'or, l'argent, bon, parfois un peu de cuivre, mais tout ça mêlé donne une œuvre assez considérable.
D'autant plus que là, vous avez accompli, je ne dirais pas un de vos fantasmes, mais une de vos sûrement quelque chose qui devait susciter votre méditation, c'est-à-dire que vous êtes un peu introduit dans l'esprit d'Alexandre Dumas en parachevant une de ses œuvres.
Oui, là, ça a été pour moi une sorte, je pourrais dire, tirons l'échelle, il n'y a plus qu'à mourir, etc. Voilà. Non, mais c'était effectivement une espèce de grand, grand, grand plaisir.
On peut rappeler
pour
le livre, donc.
Oui, c'est Le Salut de l'Empire, qui est la suite du Chevalier de Saint-Hermine, et donc que Dumas et que la mort avaient laissé inachevé. Et donc, ça a été pour moi une occasion de me faire le nègre du nègre. Et ça a été merveilleux. Enfin.
Très bien, on en reparlera donc à mauvais genre, je pense, dans quelques mois. Alors, ce qui est important aujourd'hui, donc, c'est Alexandre Dumas, Lettre à mon fils, paru aux éditions donc, du Mercure de France. On peut déjà situer un petit peu les circonstances très particulières de la naissance d'Alexandre Dumas, fils, qui naît un petit peu de la curiosité d'une voisine de son père.
Oui, une voisine habitait là. Le jeune Dumas, il était très jeune, il avait 21 ans à cette époque-là. Revient du théâtre parce qu'il avait des billets gratuits et il n'a pas de feu. Il n'y avait pas d'électricité, bien sûr. Il fallait aller chercher du feu où il y en avait. Il y en avait chez la voisine. Et donc, il est entré chez la voisine et il avoue dans un passage inédit des mémoires que c'est de cette demande de feu et du fait que la voisine a accepté de lui en donner que son fils naît.
Son fils est né. Donc, c'est étonnant. Et alors, il lui donne le même prénom.
Oui, bien sûr, il lui donne le même prénom, mais
s'il n'a pas été reconnu tout de suite.
Voilà, à défaut de nom, il a un prénom. Voilà. Et le prénom, c'est Alexandre, mais dans la mesure où le grand-père s'appelait déjà Alexandre, il y a une espèce de désir de gloire des trois dans ce mot, ce prénom de conquérant, qu'ils vont essayer de, comme un programme qu'ils vont essayer de mener à bien. Et tous les trois, effectivement, le général, le père et le fils vont réussir à obtenir cette gloire-là.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, d'une part, Dumas assume ce statut, enfin, il l'assume à sa manière, ce statut de père, et qu'il s'engage avec son fils, non pas dans un rapport soit de lien affectueux, mais un peu distant, soit un rapport d'oubli, de mettre de côté, mais au contraire, il y a quelque chose qui naît d'extrêmement puissant.
Oui, je crois que
qui va prendre toutes les formes. Le rapport paternel, le rapport amical, le rapport de complicité sentimentale, on peut le dire, le rapport de collaboration quasiment, puisque l'un écrira des livres que signera l'autre. Donc c'est fabuleux. Dans cette correspondance, on voit passer tous les modes de rapport qu'il peut y avoir entre un homme et un autre homme, sauf peut-être le rapport amoureux, quoique.
Je crois que c'est le seul amour véritable que Dumas père ait eu.
Je cite son fils. Hein. C'est en quatrième de couverture. Tu sais bien une chose, c'est que si tu étais hermaphrodite et qu'avec l'hermaphrodisme Dieu t'eût accordé la faculté de faire la cuisine, je n'aurais pas d'autre maîtresse que toi. Donc on peut dire que tous les rapports sont possibles.
Tous les rapports sont possibles et le rapport le plus important, c'est une espèce de fusion très forte.
Alors comment un petit peu va se gérer la vie de ces deux hommes? Parce qu'on voit qu'au départ, les choses vont bien, mais il y a quand même des tensions très rapides qui naissent entre le père et le fils à propos des maîtresses, notamment.
Voilà, il y a une jalousie du fils extraordinaire qui veut son père pour lui tout seul. De même, le père a tendance, et pas seulement pour Alexandre le fils, mais aussi pour la fille Marie, il a le désir absolu de retirer les enfants à la mère. Les enfants doivent lui appartenir à lui tout seul. Donc, effectivement, double rapport. Et le fils ne supporte pas, effectivement, le moindre intrusion des maîtresses qui mettent de l'ordre, par ailleurs, dans un désordre qui l'arrange. Hein. Et donc, il va y avoir, pendant toute jusqu'au moment où Dumas fils a lui-même des maîtresses, d'une façon attitrée, il y a véritablement une lutte perpétuelle du fils contre les maîtresses.
Alors, il y a une lettre, c'est pas une lettre, je veux absolument que ce soit une lettre, mais non, c'est un extrait donc, d'un texte de Dumas fils que je trouve absolument bouleversant. Il raconte cette espèce de retour à la maison, un soir d'échec théâtral. Alors, je vais le lire là. « Nous revînmes ensemble tout seuls, toi me tenant par la main, moi trottinant à ton côté pour me mettre à l'unisson de tes grandes jambes. Tu ne parlais pas, je ne disais rien non plus, je sentais que tu étais triste et qu'il fallait me taire. » Depuis ce jour, je n'ai jamais longé le vieux mur de la rue de Seine, près du guichet de l'Institut, où tu ne devais pas entrer, sans revoir nos silhouettes sur cette muraille humide, léchée ce soir-là d'un grand rayon de lune. Je ne suis jamais non plus revenu d'une de mes premières représentations les plus bruyantes et les plus applaudies, sans me rappeler le froid de cette grande salle, notre marche silencieuse à travers les rues désertes, et sans me dire tout bas, pendant que mes amis me félicitaient, c'est possible, mais j'aimerais mieux avoir fait Charles VII qui n'a pas réussi.
Oui, alors
extraordinaire, c'est... cette scène comme ça, de mélancolie.
Et il faut l'imaginer, c'est un enfant de 7 ans hein, à ce moment-là. Voilà. Et le père, c'est un très jeune père de 29 ans. Ce sont des... C'est l'enfance, en fait. L'enfance et la beauté des choses qui ont disparu très vite, en définitive.
Donc, ce petit passage, c'est très, très bouleversant. Alors, une autre question. Donc, le père a une passion pour son fils, une passion tendue pour des raisons, effectivement, dans l'entourage du père. Mais comment naît et se développe une vocation littéraire à l'ombre d'Alexandre Dumas?
Oui, alors, dans un premier temps, le père lui-même qui ne veut pas faire, il veut plutôt faire de son fils un diplomate qu'un...
Oui, tout le monde veut avoir un fils avocat ou médecin, voilà, surtout quand on est acteur.
Voilà, et donc il veut que son fils ait l'éducation que lui n'a pas eue. C'est-à-dire l'éducation de Casimir de la Vigne, qui par ailleurs a fort bien réussi au théâtre. Et donc il y a une très jolie lettre où il donne des conseils savants à son fils, des conseils de lecture un peu fantaisistes quelquefois, puisqu'il estime que le Hongrois avec du latin on peut se débrouiller en Hongrie. Mais enfin, qui est un programme pour conquérir le monde quand même. Il veut que son fils soit un conquérant, hein, un Alexandre. Bon, ensuite il est bien évident qu'il y a tout le moment des gammes, et il sent que son fils se perd, comme tous les fils trop gâtés, qui n'a qu'à ouvrir les tiroirs pour trouver l'argent de son père, que son père dilapide d'une façon
pour le prendre vite, parce qu'il disparaît vite.
Mais bon, le fils réussit à trouver véritablement de l'argent, et donc le père va lui dire, il faut que tu gagnes de l'argent, que tu sois comme moi, donc tu vas écrire des textes secondaires que j'ai promis quelque part, telle vie de peintre, un projet qui n'a pas abouti comme l'histoire du château de Versailles, anecdotique. Donc c'est le père qui va véritablement engager son fils dans cette vie un peu de barreau de chaise, parce que tout dépend de la bonne volonté des journaux. Et à partir de ce moment-là, le père et le fils vont vivre une espèce de bohème commune. Bon, la différence est que le père a un nom et que le fils doit s'en faire un. Et c'est très difficile de se faire un nom quand on s'appelle Alexandre Dumas. Et il y a une phrase très jolie où le père dit à son fils « Tu ne devrais pas signer Alexandre Dumas parce que moi, je suis trop jeune pour signer Alexandre Dumas père. » Il trouve que c'est exagéré. Il faut qu'il attende un peu pour s'appeler Alexandre Dumas.
Alors arrive quand même le jour où l'étoile du fils monte à son zénith, qui est quand même la Dame aux Camélias, qui va faire de lui
un véritable mythe
littéraire, de même que le père avait créé donc les mythes mousquetaires et les mythes combattants, chacun à sa manière créant un mythe littéraire français. Mais d'une certaine façon, le fils après va prendre soin du père. L'étoile du père décline, celle du fils poursuit son ascension. Et après, donc, c'est très émouvant de voir comment il vient au secours de son père et où il se soucie de lui.
Le fils devient le père de son père, en fait, en quelque sorte. Et là, c'est un passage un peu émouvant et puis dramatique pour Dumas père, hein, quand il dit à Dumas fils mon Paris n'est plus mon Paris, c'est ton Paris, c'est-à-dire que la succession se fait. Et ça correspond à la Révolution de 48, donc un changement de régime, et aussi un changement de régime littéraire, puisque on va passer, en fait, grosso modo, de l'idéalisme romantique au réalisme, surtout au théâtre, où il va y avoir Alexandre Dumas fils, mais il va y avoir Émile Augier, etc. Mmh. Toute cette veine réaliste qui va arriver.
Et donc Dumas a vécu quand même sur le mode de l'acceptation, le succès de son fils. Il n'y a eu à aucun moment de...
Oui, mais je crois qu'il y a quelque part du suicide littéraire à ce moment-là. Hein, parce que c'est le moment où, en fait, il n'écrit pratiquement plus de romans historiques. Il a abandonné avec le départ de Maquet. Donc, c'est l'arrivée du fils, c'est sa mort quelque part. Une mort littéraire. Il va survivre quand même 20 ans. Hein, mais il va survivre littérairement sur un mode mineur.
Alors à la fin, justement, il y a un très joli texte où il évoque un peu, c'est le dernier moment de son père. Tous les soucis, toutes les excitations, tous les énervements de sa vie fiévreuse sont venus mourir à ma porte. Je ne laisse pénétrer du dehors que le soleil et le grand air. Il s'y mêle quelquefois un peu trop de vent, mais il l'a toujours aimé. Et comme il me disait hier, j'aime le vent parce qu'il m'empêche de penser. L'appétit est bon et régulier, le sommeil devenu plus court et plus réparateur, mais le soir venu, il s'y replonge avec délice. Supposer un homme prenant un bain à même les éléments, voilà son état. Oui, extraordinaire, le long crépuscule douloureux d'Alexandre Dumas veillé par son fils.
Oui, douloureux même pas, il n'a pas conscience. En fait, c'est quelqu'un qui a eu la chance, en quelque sorte, de mourir sans s'en apercevoir. Donc, il y a deux mois chez son fils au bord de la mer. Et ça m'a toujours fait rêver, jouant avec ses petites filles au domino et regardant la mer.
Mais oui.
Rien n'était meilleur.
C'est la fin d'Alexandre Dumas. Vous êtes avant tout chercheur, une espèce d'érudit comme ça, toujours en quête du document. Où sont ces lettres, d'une certaine façon? Parce que j'ai noté quand même des sources extrêmement variées, extrêmement diverses.
Oui, l'essentiel quand même repose dans deux fonds de la Bibliothèque nationale de France. Mmh. Ce sont des dons faits par la fille de Dumas fils. Donc, nous avons là l'essentiel. Mais il y a eu des...
Parce qu'il y a encore des lettres à venir.
Oh, il y a beaucoup d'êtres. Et le grand manque, et là, je n'ai pas trouvé, donc j'espère un jour refaire quelque chose, ce sont les lettres du fils au père. Il y en a une ou deux, mais très, très peu. Alors, il y a dû y avoir une quantité considérable de lettres. Où sont-elles actuellement enfermées dans...
On peut lancer un appel à nos...
C'est un appel angoissé, parce que je ne voudrais pas mourir sans... connaître ce que disait ou répondait le fils au père.
Alors, ce qui est extraordinaire dans ces lettres, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments, mais jamais de sentimentalisme. C'est-à-dire qu'elles sont parfois d'une brièveté absolue. Où es-tu? Je ne sais pas, réponds-moi. Enfin, il y a des fois des billets d'une ligne. Et malgré tout, dans cette correspondance parfois extrêmement elliptique, extrêmement écrite à saut et à gambade, écrite sur un genou, comme on peut le dire, il y a toujours un sentiment qui passe. Il y a toujours une espèce d'affectivité intense du père vers le fils.
Oui, et puis surtout, enfin, cela est multiplié lorsque le père est à l'étranger et qui écrit à son fils. Les lettres de Russie sont absolument somptueuses et les lettres ensuite de Naples sont extrêmement intéressantes, très développées. Donc il faut qu'il y ait séparation pour qu'il y ait justement affirmation de ce lien privilégié.
Oui, c'est ça.
Et donc il y a des choses aussi très jolies où le père sent la santé du fils vaciller dans les années 60, où il l'invite à venir à Sorrente ou à Naples, où lui s'est installé auprès de Garibaldi et après tout seul à diriger son journal.
Il rêve
en définitive d'avoir son fils auprès de lui.
Mmh. Et le fils n'a jamais été tenté de faire ce que vous avez fait, je pense au fils Féval qui a continué le bossu, il n'y a jamais eu de tentative du fils Dumas
la seule tentative que je connaisse
l'œuvre du père.
Vraiment, il y a deux choses qui sont très belles. Il y a la préface qu'il donne aux Trois Mousquetaires faite par le Loir, où il raconte des choses très intimes et très intéressantes. Mmh. Et il y a le Joseph Balsamo pour le théâtre que Dumas père n'avait pas terminé, que son fils va terminé et joué une dizaine d'années après la mort.
Mais il n'y a pas de roman.
Il n'y a pas de roman, non.
Parce qu'en définitive, l'œuvre de Dumas fils, c'est quoi, par la Dame aux Camélias ?
C'est une grande œuvre théâtrale qui a révolutionné le théâtre, mais qu'on a totalement oublié.
Théâtral.
Mais j'en ai revu récemment, ça tient. Le Demi-Monde, par exemple, tient absolument bien la scène, encore aujourd'hui, parce que c'est méchant.
Oui, la méchanceté, ça dure.
Ça dure.
Surtout chez les romantiques. Merci Claude Chope d'avoir été ce soir l'invité donc de La Malle des Indes. Je conseille très vivement ces lettres bouleversantes d'Alexandre Dumas à son fils, paru au Mercure de France dans la collection Le Temps Retrouvé. C'était donc La Malle des Indes, réalisation Brigitte Mazire, prise de son Pierre Mine. Nous retrouvons maintenant Blandine Masson.